Chapitre 8, 3 et 4 juin 1833. Auberge de Wiesenbach. Un Allemand et sa femme. Ma vieillesse. Heidelberg. Pèlerin. Ruine. Mannheim. Je me mis moi-même en route, par terre, quelques instants après que l'hirondelle eut appareillé. La nuit fut couverte. La lune se promenait, affaiblie et rongée, entre des nuages. Mes yeux, à moitié endormis, se fermaient en la regardant. Je me sentais comme expiré à la lumière mystérieuse qui éclaire les ombres. J'éprouvais je ne sais quel paisible accablement, avant-coureur du dernier repos. Manzoni. Je m'arrête à Wiesenbach, auberge solitaire, étroit vallon cultivé entre deux collines boisées. Un Allemand de Brunswick, voyageur comme moi, ayant entendu prononcer mon nom, accourt. Il me serre la main, me parle de mes ouvrages. Sa femme, me dit-il, apprend à lire le français dans le génie du christianisme. Il ne cessait de s'étonner de ma jeunesse. Mais, a-t-il ajouté, c'est la faute de mon jugement. Je devais vous croire à vos derniers ouvrages, aussi jeune que vous me le paraissez. Ma vie a été mêlée à tant d'événements que j'ai, dans la tête de mes lecteurs, l'ancienneté de ces événements mêmes. Je parle souvent de ma tête grise, calcul de mon amour-propre, afin qu'on s'écrie en me voyant « Ah, il n'est pas si vieux !» On est à l'aise avec des cheveux blancs, on s'en peut vanter. Se glorifier d'avoir les cheveux noirs serait de bien mauvais goût. Grand sujet de triomphe d'être comme votre mère vous a fait. Mais être comme le temps, le malheur et la sagesse vous ont mis, c'est cela qui est beau. Ma petite ruse m'a réussi quelquefois. Tout dernièrement, un prêtre avait désiré me connaître. Il resta muet à ma vue. Recouvrant enfin la parole, il s'écria « Ah, monsieur, vous pourrez donc encore combattre longtemps pour la foi !» Un jour, passant par Lyon, une dame m'écrivit. Elle me priait de donner une place à sa fille dans ma voiture et de la mener à Paris. La proposition me parut singulière. Mais enfin, vérification faite de la signature, l'inconnue se trouve être une dame fort respectable. Je répondis poliment. La mère se présenta avec sa fille, divinité de 16 ans. La mère n'eut pas plutôt jeté les yeux sur moi qu'elle devint rouge écarlate. Sa confiance l'abandonna. « Pardonnez, monsieur, me dit-elle en balbutiant, je n'en suis pas moins rempli de considération, mais vous comprendrez les convenances. Je me suis trompée, je suis si surprise. » J'insistais en regardant ma future compagne, qui semblait rire du débat. Je me confondais en protestation que je prendrais tous les soins imaginables de cette belle jeune personne. La mère s'anéantissait en excuses et en révérences. Les deux dames se retirèrent. J'étais fière de leur avoir fait tant de peur. Pendant quelques heures, je me crus rajeunie par l'aurore. La dame s'était figurée que l'auteur du génie du christianisme était un vénérable abbé de Chateaubriand, vieux bonhomme grand et sec, prenant incessamment du tabac dans une énorme tabatière de fer blanc, et lequel pouvait très bien se charger de conduire une innocente pensionnaire au Sacré-Cœur. On racontait à Vienne, il y a 2 ou 3 lustres, que je vivais tout seul dans une certaine vallée, appelée la vallée aux loups. Ma maison était bâtie dans une île. Lorsqu'on voulait me voir, il fallait sonner du cor au bord opposé de la rivière à Châtenay. Alors je regardais par un trou. Si la compagnie me plaisait, chose qui n'arrivait guère, je venais moi-même la chercher dans un petit bateau. Sinon, non. Le soir, je tirais mon canot à terre, et l'on n'entrait point dans mon île. Au fait, j'aurais dû vivre ainsi. Cette histoire de Vienne m'a toujours charmée. Monsieur de Metternich ne l'a pas sans doute inventée. Il n'est pas assez mon ami pour cela. J'ignore ce que le voyageur allemand aura dit de moi à sa femme, et s'il se sera empressé de la détromper sur ma caducité. Je crains d'avoir les inconvénients des cheveux noirs et des cheveux blancs, et de n'être ni assez jeune ni assez sage. Au surplus, je n'étais guère en train de coquetterie à Wiesenbach. Une bise triste gémissait sous les portes et dans les corridors de l'hôtellerie. Quand le vent souffle, je ne suis plus amoureux que de lui. de Wissenbach à Heidelberg, on suit le cours du Necker, encaissé par des collines qui portent des forêts sur un banc de sable et de sulfate sanguine. Que de fleuves j'ai vu couler! Je rencontrai des pèlerins de Waldhuren. Ils formaient deux files parallèles des deux côtés du grand chemin. Les voitures passaient au milieu. Les femmes marchaient pieds nus, un chapelet à la main, un paquet de linge sur la tête. Les hommes, nu-tête, le chapelet aussi à la main. Il pleuvait. Dans quelques endroits, les nues aqueuses rampaient sur le flanc des collines. Des bateaux chargés de bois descendaient la rivière, d'autres la remontaient à la voile ou à la traîne. Dans les brisures des collines étaient des hameaux parmi les champs, au milieu de riches potagers ornés de rosiers du Bengale et différents arbustes à fleurs. Pèlerins, priez pour mon pauvre petit roi. Il est exilé, il est innocent. Il commence son pèlerinage quand vous accomplissez le vôtre et quand je finis le mien. S'il ne doit pas régner, ce me sera toujours quelque gloire d'avoir attaché le débris d'une si grande fortune à ma barque de sauvetage. Dieu seul donne le bon vent et ouvre le port. En approchant de Heidelberg, le lit du Necker, semé de rochers, s'élargit. On aperçoit le port de la ville et la ville elle-même qui fait bonne contenance. Le fond du tableau est terminé par un haut horizon terrestre. Il semble barrer le fleuve. Un arc de triomphe en pierre rouge annonce l'entrée de Heidelberg. À gauche, sur une colline, s'élèvent les ruines moyenâgées d'un château. À part leur effet pittoresque et quelques traditions populaires, les débris du temps gothique n'intéressent que les peuples dont ils sont l'ouvrage. Un Français s'embarrasse-t-il des seigneurs palatins, des princesses palatines, toutes grasses, toutes blanches qu'elles aient été, avec des yeux bleus? On les oublie pour Sainte Geneviève de Brabant. Dans ces débris modernes, rien de commun au peuple moderne, sinon la physionomie chrétienne et le caractère féodal. Il en est autrement, sans compter le soleil, des monuments de la Grèce et de l'Italie. Ils appartiennent à toutes les nations. Ils en commencent l'histoire. Leurs inscriptions sont écrites dans des langues que tous les hommes civilisés connaissent. Les ruines même de l'Italie renouvelée ont un intérêt général, parce qu'elles sont empreintes du sceau des arts, et les arts tombent dans le domaine public de la société. Une fresque du Dominicain ou du Titien qui s'efface, un palais de Michel-Ange ou de Palladio qui s'écroule, mettent en deuil le génie de tous les siècles. On montre à Heidelberg un tonneau démesuré, colisé en ruines des ivrognes. Du moins, aucun chrétien n'a perdu la vie dans cet amphithéâtre des Vespasiens du Rhin. La raison, oui, ce n'est pas grande perte. Au débouché de Heidelberg, les collines à droite et à gauche du Necker s'écartent, et l'on entre dans une plaine. Une chaussée tortueuse, élevée de quelques pieds au-dessus du niveau des blés, se dessine entre deux rangées de cerisiers maltraités du vent et de noyers, souvent du passant insulté. À l'entrée de Mannheim, on traverse des plants de houblon, dont les longs échalas secs n'étaient encore décorés qu'au tiers de leur hauteur par la liane grimpante. Julien l'Apostat a fait contre la bière une jolie épigramme. L'abbé de la Blatterie l'a imitée avec assez d'élégance. « Tu n'es qu'un faux Bacchus, j'en atteste le véritable. Que le Gaulois, pressé d'une soif éternelle, au défaut de la grappe et recours aux épis, de Cérès qu'il vante le fils. Vive le fils de Semel. » Quelques vergers, des promenades ombragées de saules, à toute venue, forment le faubourg verdoyant de Mannheim. Les maisons de la ville n'ont souvent qu'un étage au-dessus du rez-de-chaussée. La principale rue est large et plantée d'arbres au milieu. C'est encore une cité déchue. Je n'aime pas le faux or. Aussi n'ai-je jamais voulu d'or de Mannheim, mais j'ai certainement de l'or de Toulouse, à en juger par les désastres de ma vie. Qui, plus que moi, cependant, a respecté le temple d'Apollon? Chapitre 9, 3 et 4 juin 1833. Le Rhin, le Palatinat, armée aristocratique, armée plébéienne, couvent et château, mont Tonnerre, auberge solitaire, Kaiserlautern, sommeil, oiseau, Sarrebruck. J'ai traversé le Rhin à 2 heures de l'après-midi. Au moment où je passais, un bateau à vapeur remontait le fleuve. Qu'eût dit César s'il eût rencontré une pareille machine lorsqu'il bâtissait son pont? De l'autre côté du Rhin, en face de Mannheim, on retrouve la Bavière, par une suite des odieuses coupures et des tripotages des traités de Paris, de Vienne et d'Aix-la-Chapelle. Chacun a fait sa part avec des ciseaux, sans égard à la raison, à l'humanité, à la justice, sans s'embarrasser du lopin de population qui tombait dans une gueule royale. En roulant dans le Palatinat cisrénant, je songeais que ce pays formait naguère un département de la France, que la blanche Gaule était sainte de l'écharpe bleue de la Germanie, le Rhin. Napoléon et la République avant lui avaient réalisé le rêve de plusieurs de nos rois et surtout de Louis XIV. Tant que nous n'occuperons pas nos frontières naturelles, il y aura guerre en Europe, parce que l'intérêt de la conservation pousse la France à saisir les limites nécessaires à son indépendance nationale. Ici, nous avons planté des trophées pour réclamer en temps et lieu. La plaine entre le Rhin et les monts Tonnerre est triste. Le sol et les hommes semblent dire que leur sort n'est pas fixé, qu'ils n'appartiennent à aucun peuple. Ils paraissent s'attendre à de nouvelles invasions d'armées comme à de nouvelles inondations du fleuve. Les Germains de Tacite dévastaient de grands espaces à leurs frontières et les laissaient vides entre elles et les ennemis. Malheur à ces populations limitrophes qui cultivent les champs de bataille où les nations doivent se rencontrer. En approchant de, j'ai vu une chose mélancolique. Un bois de jeunes pins de 5 à 6 pieds abattus et liés en fagots, une forêt coupée en herbe. J'ai parlé du cimetière de Lucerne, où se pressent à part les sépultures des enfants. Je n'ai jamais senti plus vivement le besoin de finir mes courses, de mourir sous la protection d'une main amie appliquée sur mon cœur pour l'interroger lorsqu'on dira « il ne bat plus ». Du bord de ma tombe, je voudrais pouvoir jeter en arrière un regard de satisfaction sur mes nombreuses années. Comme un pontife arrivé au sanctuaire bénit la longue file de lévites qui lui servirent de cortège. Louvois incendia le Palatinat. Malheureusement, la main qui tenait le flambeau était celle de Turenne. La Révolution a ravagé le même pays, témoin et victime tour à tour de nos victoires aristocratiques et plébéiennes. Il suffit des noms des guerriers pour juger de la différence des temps. D'un côté, Condé, Turenne, Créqui, Luxembourg, La Force, Villars. De l'autre, Kellermann, Hoche, Pichegru, Moreau. Ne renions aucun de nos triomphes. Les gloires militaires surtout n'ont connu que des ennemis de la France et n'ont eu qu'une opinion. Sur le champ de bataille, l'honneur et le péril nivellent les rangs. Nos pères appelaient le sang sorti d'une blessure non mortelle « sang volage », mot caractéristique de ce dédain de la mort, naturel aux Français dans tous les siècles. Les institutions ne peuvent rien changer à ce génie national. Les soldats qui, après la mort de Turenne, disaient « qu'on lâche la pie, nous camperons où elle s'arrêtera », aurait parfaitement valu les grenadiers de Napoléon. Sur les hauteurs de Dunkheim, premier rempart des Gaules de ce côté, on découvre des assiettes de camps et des positions militaires aujourd'hui dégarnies de soldats. Burgondes, Francs, Goths, Huns, Suèves, flots du déluge des barbares ont tour à tour assailli ces hauteurs. Non loin de Dunkheim, on aperçoit les éboulements d'un monastère. Les moines enclos dans cette retraite avaient vu bien des armées circuler à leurs pieds. Ils avaient donné l'hospitalité à bien des guerriers. Là, quelques croisés avaient fini sa vie, changé son aume contre le froc. là furent des passions qui appelèrent le silence et le repos, avant le dernier repos et le dernier silence. Trouvèrent-elles ce qu'elles cherchaient ? Ces ruines ne le diront pas. Après les débris du sanctuaire de la paix, viennent les décombres du repère de la guerre, les bastions, mantelets, courtines, tourillons démolis d'une forteresse. Les remparts s'écroulent comme les cloîtres. Le château était embusqué dans un sentier scabreux pour le fermer à l'ennemi. Il n'a pas empêché le temps et la mort de passer. De Dunkheim à Frankenstein, la route se faufile dans un vallon si resserré qu'il garde à peine la voie d'une voiture. Les arbres descendant de deux talus opposés se joignent et s'embrassent dans la ravine. Entre la Messénie et l'Arcadie, j'ai suivi des vallons semblables, au beau chemin près. Pan n'entendait rien aux ponts et chaussées. Des genêts en fleurs et un jet m'ont reporté au souvenir de la Bretagne. Je me souviens du plaisir que me fit le cri de cet oiseau dans les montagnes de Judée. Ma mémoire est un panorama. Là viennent se peindre sur la même toile les sites et les cieux les plus divers, avec leur soleil brûlant ou leur horizon brumeux. L'auberge à Frankenstein est placée dans une prairie de montagne, arrosée d'un courant d'eau. Le maître de la poste parle français. Sa jeune sœur, ou sa femme, ou sa fille, est charmante. Il se plaint d'être bavarois. Il s'occupe de l'exploitation des forêts. Il me représentait un planteur américain. À Kaiserslautern, où j'arrivais de nuit comme à Bamberg, je traversais la région des songes. Que voyaient dans leur sommeil tous ces habitants endormis? Si j'avais le temps, je ferais l'histoire de leurs rêves. Rien ne m'aurait rappelé la terre si deux cailles ne s'étaient répondues d'une cage à l'autre. Dans les champs en Allemagne, depuis Prague jusqu'à Mannheim, on ne rencontre que des corneilles, des moineaux et des alouettes. Mais les villes sont remplies de rossignols, de fauvettes, de grives, de cailles. Plaintifs prisonniers et prisonnières qui vous saluent aux barreaux de leurs geôles quand vous passez. Les fenêtres sont parées d'œillets, de réséda, de rosiers, de jasmin. Les peuples du Nord ont les goûts d'un autre ciel. Ils aiment les arts et la musique. Les Germains vinrent chercher la vigne en Italie. Leurs fils renouvelleraient volontiers l'invasion pour conquérir au même lieu des oiseaux et des fleurs. Le changement de la veste du postillon m'avertit, le mardi 4 juin, à Sarrebruck, que j'entrais en Prusse. Sous la croisée de mon auberge, je vis défiler un escadron de hussards. Ils avaient l'air fort animés. Je l'étais autant qu'eux. J'aurais joyeusement concouru à frotter ces messieurs, bien qu'un vif sentiment de respect m'attache à la famille royale de Prusse. Bien que les emportements des Prussiens à Paris n'aient été que les faibles représailles des brutalités de Napoléon à Berlin. Mais si l'histoire a le temps d'entrer dans ces froides justices qui font dériver les conséquences des principes, l'homme, témoin des faits vivants, est entraîné par ces faits, sans aller chercher dans le passé les causes dont ils sont sortis, et qui les excusent. Elle m'a fait bien du mal, ma patrie, mais avec quel plaisir je lui donnerai mon sang. Oh, les fortes têtes, les politiques consommées, les bons Français surtout, que ces négociateurs des traités de 1815. Encore quelques heures, et ma terre natale va de nouveau tressaillir sous mes pas. Que vais-je apprendre? Depuis 3 semaines, j'ignore ce qu'ont dit et fait mes amis. 3 semaines. Long espace pour l'homme qu'un moment emporte. Pour les empires, que 3 journées renversent. Et ma prisonnière de Blaye, qu'est-elle devenue? Pourrais-je lui transmettre la réponse qu'elle attend? Si la personne d'un ambassadeur doit être sacrée, c'est la mienne. Ma carrière diplomatique devint sainte auprès du chef de l'Église. Elle achève de se sanctifier auprès d'un monarque infortuné. J'ai négocié un nouveau pacte de famille entre les enfants du Béarnais. J'en ai porté et rapporté les actes de la prison à l'exil et de l'exil à la prison. Chapitre 10, 4 et 5 juin. Terre de France, arabesque, dans ma casquette, s'il vous plaît. Messe. Regard sur ma famille et ma vie. Présent des enfants exilés. Verdun, Valmy. Chalon, vallée de la Marne. En passant la limite qui sépare le territoire de Sarrebruck de celui de Forbach, la France ne s'est pas montrée à moi d'une manière brillante. D'abord un cul-de-jatte, puis un autre homme qui rampait sur les mains et sur les genoux, traînant après lui ses jambes comme deux queues torses ou deux serpents morts. Ensuite on parut dans une charrette deux vieilles, noires, ridées, avant-garde des femmes françaises. Il y avait de quoi faire rebrousser chemin à l'armée prussienne. Mais après, j'ai trouvé un beau jeune soldat à pied, avec une jeune fille. Le soldat poussait devant lui la brouette de la jeune fille, et celle-ci portait la pipe et le sabre du troupier. Plus loin, une autre jeune fille, tenant le manche d'une charrue, et un laboureur âgé, piquant les bœufs. Plus loin, un vieillard mendiant pour un enfant aveugle. Plus loin, une croix. Dans un hameau, une douzaine de têtes d'enfants, à la fenêtre d'une maison non achevée, ressemblaient à un groupe d'anges dans une gloire. Voici une garçonnette de 5 à 6 ans, assise sur le seuil de la porte d'une chaumière, tête nue, cheveux blonds, visage barbouillé, faisant une petite mine à cause d'un vent froid. Ses deux épaules blanches sortant d'une robe de toile déchirée, les bras croisés sur ses genoux haussés et rapprochés de sa poitrine, regardant ce qui se passait autour d'elle avec la curiosité d'un oiseau. Raphaël l'aurait croquée. Moi, j'avais envie de la voler à sa mère. À l'entrée de Forbach, une troupe de chiens savants se présente, les deux plus gros attelés au fourgon des costumes. 5 ou 6 autres, de différentes queues, museaux, tailles et pelages, suivaient le bagage, chacun son morceau de pain à la gueule. 2 graves instructeurs, l'un portant un gros tambour, l'autre ne portant rien, guident la bande. « Allez, mes amis, faites le tour de la terre comme moi, afin d'apprendre à connaître les peuples. Vous tenez tout aussi bien votre place dans le monde que moi. Vous valez bien les chiens de mon espèce. Présentez la patte à Diane, à Mirza, à Pax, chapeau sur l'oreille, épée au côté, la queue en trompette entre les 2 basques de votre habit. Dansez pour un os ou pour un coup de pied, comme nous faisons, nous autres hommes. Mais n'allez pas vous tromper en sautant pour le roi. » Lecteur, supportez ces arabesques. La main qui les dessina ne vous fera jamais d'autre mal. Elle est séchée. Souvenez-vous, quand vous les verrez, qu'ils ne sont que les capricieux enroulements tracés par un peintre à la voûte de son tombeau. À la douane, un vieux cadet de commis a fait semblant de visiter ma calèche. J'avais préparé une pièce de 100 sous, il la voyait dans ma main, mais il n'osait la prendre à cause des chefs qui le surveillaient. Il a ôté sa casquette sous prétexte de mieux fouiller, l'a posée sur le coussin devant moi, me disant tout bas « Dans ma casquette, s'il vous plaît. » Oh, le grand mot, il renferme l'histoire du genre humain. Que de fois la liberté, la fidélité, le dévouement, l'amitié, l'amour, on dit, dans ma casquette, s'il vous plaît. Je donnerai ce mot à Béranger pour le refrain d'une chanson. Je fus frappé en entrant à Metz d'une chose que je n'avais pas remarquée en 1821. Les fortifications à la moderne enveloppent les fortifications à la gothique. Guise et Vauban sont 2 noms bien associés. Nos ans et nos souvenirs sont étendus en couches régulières et parallèles, à différentes profondeurs de notre vie, déposées par les flots du temps qui passent successivement sur nous. C'est de Metz que sortit, en 1792, la colonne engagée sous Thionville, avec notre petit corps d'émigrés. J'arrive de mon pèlerinage à la retraite du prince banni que je servais dans son premier exil. Je lui donnai alors un peu de mon sang. Je viens de pleurer auprès de lui. À mon âge, on n'a guère plus que des larmes. En 1821, monsieur de Tocqueville, père d'Alexis de Tocqueville, note de l'auteur, beau-frère de mon frère, était préfet de la Moselle. Les arbres, gros comme des échalas, que M. de Tocqueville plantait en 1820 à la porte de Metz, donne maintenant de l'ombre. Voilà une échelle à mesurer nos jours. Mais l'homme n'est pas comme le vin, il ne s'améliore pas en comptant par feuilles. Les anciens faisaient infuser des roses dans le falerne. Lorsqu'on débouchait une amphore d'un consulat séculaire, elle embaumait le festin. La plus pure intelligence se mêlerait à de vieux ans que personne ne serait tenté de s'enivrer avec elle. Je n'avais pas été un quart d'heure dans l'auberge à Metz que voici venir Baptiste en grande agitation. Il tire mystérieusement de sa poche un papier blanc dans lequel était enveloppé un cachet. Monsieur le duc de Bordeaux et mademoiselle l'avaient chargé de ce cachet, lui recommandant de ne me le donner que sur terre de France. Ils avaient été bien inquiets toute la nuit avant mon départ, craignant que le bijoutier n'eût pas le temps d'achever l'ouvrage. Le cachet a trois faces. Sur l'une est gravée une encre. Sur la seconde, les deux mots que Henri m'avait dits lors de notre première entrevue. Oui, toujours. Sur la troisième, la date de mon arrivée à Prague. Le frère et la sœur me priaient de porter le cachet pour l'amour d'eux. Le mystère de ce présent, l'ordre des deux enfants exilés de ne me remettre le témoignage de leurs souvenirs que sur terre de France, remplirent mes yeux de larmes. Le cachet ne me quittera jamais. Je le porterai pour l'amour de Louise et de Henri. J'eusse aimé avoir à Metz la maison de Faber, soldat devenu maréchal de France, et qui refusa le collier des ordres, sa noblesse ne remontant qu'à son épée. Les barbares nos pères égorgèrent à Metz, les Romains surpris au milieu des débauches d'une fête. Nos soldats ont valsé au monastère d'Alcobaça avec le squelette d'Ignèce des Castro. Malheurs et plaisirs, crimes et folies, 14 siècles vous séparent, et vous êtes aussi complètement passés les uns que les autres. L'éternité commencée tout à l'heure est aussi ancienne que l'éternité datée de la première mort, du meurtre d'Abel. Néanmoins, les hommes, durant leur apparition éphémère sur ce globe, se persuadent qu'ils laissent d'eux quelques traces. Eh bon Dieu, oui, chaque mouche a son ombre. Parti de Metz, je traversai Verdun, où je fus si malheureux, où demeure aujourd'hui l'ami solitaire de Carrel. J'ai côtoyé les hauteurs de Valmy. Je n'en veux pas plus parler que de Gemappe. J'aurais peur d'y trouver une couronne. Chalon m'a rappelé une grande faiblesse de Bonaparte. Il y exila la beauté. Paix à Chalon, qui me dit que j'ai encore des amis. À Château-Thierry, j'ai retrouvé mon Dieu, La Fontaine. C'était l'heure du salut. La femme de Jean n'y était plus, et Jean était retourné chez Madame de la Sablière. En rasant le mur de la cathédrale de Meaux, j'ai répété à Bossuet ces paroles. L'homme arrive au tombeau, traînant après lui la longue chaîne de ses espérances trompées. À Paris, j'ai passé les quartiers habités par moi avec mes sœurs dans ma jeunesse. Ensuite, le palais de justice remémoratif de mon jugement. Ensuite, la préfecture de police qui me servit de prison. Je suis enfin rentré dans mon hospice en dévidant ainsi le fil de mes jours. Le fragile insecte des bergeries descend au bout d'une soie vers la terre, où le pied d'une brebis va l'écraser.